Carte. Alors bien sûr, il y a une tendance depuis une vingtaine d'années de monter des partis d'extrême droite ou de droite radicale, ça dépend comment on les appelle en fonction des pays, dans toute l'Europe, mais on n'est pas dans le raz-de-marée qu'on nous avait annoncé. On en est même très loin. On voit que les forces conservatrices du Parlement européen, le PPE, qui n'est absolument pas l'extrême droite, mais la droite républicaine traditionnelle,
la droite traditionnelle, appelons-la comme
ça, est renforcée, gagne des sièges. Donc il faut quand même relativiser ces résultats, même si ce qu'ils nous disent de l'opinion publique européenne est quand même très important.
En effet, une évolution relativement récente en Allemagne est très inquiétante. Et je crois que l'AFD, mais non seulement l'AFD, d'autres groupes qui font partie du groupe ID ou d'autres non-inscrits vont venir probablement se regrouper, ou peut-être pas dans un seul bloc de l'extrême droite, parce que je pense qu'ils sont très divisés entre eux et qu'ils n'arriveront pas à faire un gros bloc d'extrême droite. Mais en tout cas, ils ont déjà commencé, ils vont poursuivre cette influence qu'ils ont, qui n'est pas seulement mathématique, mais qui est plus idéologique. Et on voit bien, et on a vu à la fin de la législature précédente, que sur une série de sujets, sur la migration, sur le Green Deal, etc., il y a des droitisations qui avaient lieu avant même que, même pas cette marée brune, mais enfin cette augmentation de l'extrême droite ne se manifeste par les urnes. Donc on est dans un mouvement de droitisation assez inquiétant.
Pour cause, un ensemble de facteurs, la hausse des coûts de l'énergie, un certain
depuis
nombre aussi,
de,
voilà, de réformes qui ont renforcé un sentiment très présent en Allemagne de l'Est, le sentiment de ne pas être logé à la même enseigne qu'une Allemagne occidentale qui fonctionne mieux d'un point de vue économique. Donc il y a un sentiment de déclassement en Allemagne de l'Est qui correspond à un sentiment là aussi largement partagé dans le reste de l'Europe. Alors certes, il n'y a peut-être pas de vague populiste, elle est contenue, mais parce qu'aussi un certain nombre de partis de droite au sein du PPE ont durci leur discours pour contenir cette vague. On le voit par exemple en Espagne.
Donc une droitisation des modérés.
Il y a aussi une droitisation des modérés pour contenir cette vague. On le voit notamment en Espagne avec le Parti Populaire qui a contenu l'ascension de Vox, hein, qui est au sein du parti ECR, donc les populistes fréquentables, appelons-les ainsi. Justement,
d'une certaine façon, ils ont déjà réussi, si je peux dire, parce qu'ils parviennent à contaminer, si je peux dire, la droite plus classique.
En termes justement d'équilibre au sein du Parlement européen, ça va compter, parce que si vous additionnez les libéraux de Renew, le PPE qui va devenir au centre du Parlement européen.
Le PPE, c'est la droite
traditionnelle. La droite classique, plus ECR qui voit son groupe être renforcé, le parti de Mélanie
populiste.
Vous avez quand même un arc droitier très important. Si vous y ajoutez les non-inscrits du Fidesz et quelques autres ramifications, vous n'êtes pas loin, voire au-delà d'une majorité possible, ce qui va peser sur un ensemble de thématiques, et notamment la thématique, je pense, écologiste, qui a joué de tout son poids dans ces élections.
Alors, on va en parler dans un instant, mais on va s'intéresser à une exception. Elle est quand même notable, la Scandinavie, Anna. Un reflux absolu de l'extrême droite dans les pays scandinaves.
Même un coup d'arrêt brutal pour les partis d'extrême droite en Suède et en Finlande, qui, je le rappelle, avaient remporté près de 20% des voix aux dernières législatives, mais un coup d'arrêt aussi au Danemark. Dans ces trois pays, donc Finlande, Suède, Danemark, la gauche est arrivée en tête des scrutins. En Suède, on va le voir, le Parti socialiste obtient près de 25% des voix, suivi du Parti conservateur et des écologiques. C'est donc une défaite cuisante pour le Parti nationaliste des démocrates d'extrême droite, donc, qui arrive seulement en quatrième position. Même constat en Finlande, où la gauche radicale et les sociodémocrates dépassent à eux deux le score des conservateurs. Et quant au parti xénophobe des vrais Finlandais, il fait le pire score de son histoire avec seulement 7,6% des voix. Et au Danemark, le Parti populaire socialiste, qui sont en fait des écologistes, arrive aussi en tête face à une extrême droite qui ne recueille que 6,4% des voix. Alors ces bons résultats de la gauche, ils sont d'autant plus surprenants que depuis quelques années, les partis d'extrême droite avaient plutôt le vent en poupe dans ces pays.
Et sur un des enjeux qui est majeur pour un certain nombre de citoyens européens, l'enjeu de la transition écologique, il y a eu du recul chez certains et une forme de pause, en tout cas, chez d'autres, et notamment chez les Nordiques, qui étaient les premiers à défendre les objectifs de transition écologique, mais qui freinent un peu des cas de fer aujourd'hui, puisqu'ils voient bien que leur population, quand même, demande un peu plus d'équilibre sur cette question. Mais c'est surtout, je pense, la guerre en Ukraine qui change la donne. En ce qui concerne la Finlande, oui, les vrais Finlandais commençaient à monter, mais enfin, les vrais Finlandais sont quand même la voix de Vladimir Poutine, bien ancrés et bien aidés, bien soutenus, encouragés. Et donc, face à cela, les Finlandais voient le danger immédiat qui est à leur frontière et donc réagissent. Et leur vote est aussi une réaction face à ce danger russe qu'ils perçoivent.
Alors, ici, comment les groupes, en effet, se constituent et ça traduit cette droitisation, à laquelle, d'ailleurs, il faut ajouter, parce que tout de même, le Parlement européen n'est pas tout seul, le Conseil européen. Il y a aussi au Conseil européen 6 ou 7 gouvernements qui sont soit dirigés par l'extrême droite, soit dans lesquels l'extrême droite est présente, qui, évidemment, pèsent très lourd dans les décisions et dans les discussions entre le Parlement et le Conseil. Et donc, cette commission, si c'est Mme von der Leyen qui est en définitive choisie, elle aura quelque part des soutiens, non seulement peut-être vis-à-vis de CR, mais aussi au Conseil européen, où pas mal de chefs d'État ou de représentants vont appuyer, si je peux dire, les idées de droite, tant sur la transition écologique...
Alors, voilà. Qui concerne les véhicules, vous savez qu'il y a une mesure symbolique très forte, l'interdiction du véhicule thermique à horizon 2035, qui a généré quand même beaucoup de ressentiments à l'égard des instances européennes. Ça, ce sont des discussions qui vont avoir lieu. Donc, il peut y avoir une volonté de desserrer l'étau écologiste sur un certain nombre de mesures qui déclinent justement ce pacte vert.
Et vous direz quelque part, tant mieux aussi, c'est justifié, il témoigne d'une vague qu'on entend aussi en Europe.
Je reprendrai, au fond, l'expression qu'a utilisée le gouvernement français. Il y a eu deux mots qui ont été utilisé par Emmanuel Macron et par Bruno Le Maire. Emmanuel Macron appelait, il y a quelques mois, à une pause normative, à une pause réglementaire, jugeant que les normes écologistes asphyxiaient nos entreprises dans un contexte de mondialisation très compliqué, où les rapports de force économiques sont très rudes.
Et le mot de Bruno Le Maire.
Et puis Bruno Le Maire, qui disait, il faut une Europe qui fixe des grands objectifs, mais qui donne beaucoup plus de souplesse aux États-nations pour les atteindre, pensant notamment au nucléaire, au fait que, sur la transition écologique, chaque pays doit au fond choisir son mix énergétique pour atteindre le même objectif, mais à partir de réalités nationales différentes. Donc beaucoup plus de souplesse, y compris dans le domaine écologique. C'est ça au fond que réclame une certaine droite et que a réclamé donc le gouvernement français ces derniers mois à travers deux expressions.
Mais celle du Parlement européen conteste, conteste parce que les urgences écologiques, elles sont là, enfin je dirais, elles sont plus là que jamais. Tout le monde en a conscience et même si sans doute faut-il ne pas aller trop vite, mais néanmoins, je pense qu'abandonner des pans entiers réglementaires du pacte vert, c'est une erreur majeure qu'on va payer et qu'on va payer y compris économiquement. Et donc c'est vrai qu'il faut à la fois rencontrer les ressentiments de pas mal de citoyens sur une série de questions, sur les voitures électriques d'ailleurs, je ne suis pas loin de penser qu'ils vont devoir retarder l'échéance parce que socialement, c'est pas tenable pour beaucoup de gens, c'est impossible de se payer une voiture électrique. Mais par ailleurs, je crois vraiment que, par exemple, sur la politique agricole commune, qui ne fait pas partie en tant que telle du pacte, quand on a bien vu la Commission européenne, quand les agriculteurs sont venus à Bruxelles, la première chose qu'on a fait, c'est pas ça qu'ils demandaient, on a supprimé la directive sur l'interdiction des pesticides, alors qu'ils demandaient du revenu et plus d'accord de libre-échange.
Marine Le Pen, qui est...
intérêt à s'allier à d'autres partis politiques. N'oublions pas qu'il y a une personne qui rêve en Europe et qui fait part de ce rêve, c'est Viktor Orban, le président hongrois, qui ne cesse d'appeler de ses voeux une alliance entre Giorgia Meloni, donc l'italienne qui siège dans le groupe ECR, et Marine Le Pen, dont les eurodéputés vont siéger dans le groupe ID. Si ce rapprochement avait lieu, bien évidemment, on pourrait imaginer que l'influence de Marine Le Pen serait importante. Mais je vous rejoins, c'est très très peu
jamais
probable.
Jamais Marine Le Pen va accepter Meloni, une chef d'État, dans son groupe, et de l'autre côté, ça ne marchera jamais.
Aujourd'hui, on voit bien que les Républicains et le Rassemblement National en France sont en train de mener une alliance qu'on n'estimait pas possible. Pourquoi cela ne serait-il pas possible s'ils peuvent avoir un poids
supplémentaire? Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai quand même le sentiment que ce sera très difficile d'allier ces deux groupes. Après ça, ils auront probablement des stratégies communes, mais en faire un seul groupe...
Vous partagez ces doutes, Max Arwenet?
L'idéologie des droites, ce qu'on peut appeler une forme d'urbanisation des droites. Il y a une étude qui est sortie assez récemment du Pew Research Center, qui est un institut de référence aux États-Unis, sur, au fond, qu'est-ce qui galvanise le vote de droite. Et puis c'est une étude qui s'intéresse aux électeurs de gauche, du centre et de la droite. Donc ça reflète une tripartition qu'on voit également en France. Et donc le carburant du vote à droite, selon cette enquête assez fournie, qui s'intéresse à l'Espagne, aux États-Unis, à l'Allemagne, à la France, c'est le sentiment national, l'exacerbation du sentiment national. La nation comme cadre politique, le cadre de la souveraineté, et la nation à la fois comme cadre culturel, avec une identité à préserver, menacée par l'immigration. Et c'est sur cet axe, la défense et la protection de la nation, qu'une certaine droite est sous pression vis-à-vis d'une extrême droite. Et Viktor Orban, lui, est à la confluence de ces deux tendances, d'où sa dynamique électorale et d'où le fait qu'un certain nombre de partis d'extrême droite limitent à travers une posture qui ne consiste plus à sortir, à proposer la sortie
européenne,
mais à y rester pour la renouveler de l'intérieur.
Vous avez... De manière assez flagrante, mais dans un an, on a des élections en Allemagne également, et on ne sait absolument pas ce que ça pourra donner aujourd'hui. Donc finalement, les deux pays forts, comme on a souvent tendance à les appeler, que sont la France et l'Allemagne,
oui, le moteur, le fameux moteur franco-allemand,
sont très instables aujourd'hui. Et donc, pour notamment des pays externe à l'Union européenne, je pense à la Chine, je pense également aux États-Unis, à la Russie et autres, les interlocuteurs de demain, pour eux, sont ceux qui sont stables. Qui est stable aujourd'hui ? Giorgia Meloni, c'est certain. Elle vient d'être confortée en plus très largement par ces élections européennes. Et également Ursula von der Leyen, qui pour l'instant reste la favorite pour mener la Commission européenne pour les 5 prochaines années.
Ça vous entendu, elle va moins porter.
Le moteur franco-allemand que vous évoquiez, c'est quand même un moteur qui est déjà fameusement grippé depuis longtemps. Je veux dire, c'est pas nouveau. Et parfois d'ailleurs, et surtout en France, plus qu'en Allemagne d'ailleurs, ou plus qu'ailleurs en Europe, on le considère comme quelque chose de sacré. On parle de couple, d'amitié, c'est presque sentimental. Alors que, bon, en définitive, sur plein de sujets, ça ne marche pas très 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 bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et on peut en énumérer pas mal, y compris évidemment depuis la guerre en Ukraine. Et donc je pense que ce moteur, il n'est pas vraiment une réalité, sauf peut-être pour ceux qui le pensent. Il n'est déjà plus vraiment une réalité au Parlement européen, même si ce sont deux grands pays qui apportent évidemment un nombre important de députés. Ils ne sont pas spécialement alignés, ou ils ne l'ont pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ils s'entendent, or on voit que, vous l'avez dit, même si demain le Rassemblement national dirige la France, il ne fera que renforcer une division franco-allemande qui existe déjà. Et peut-être aussi que ce manque de cohérence entre la France et l'Allemagne peut aussi amener à faire évoluer la manière dont fonctionne l'Union européenne avec une logique peut-être plus souple, plus subsidiariste, le principe de subsidiarité ayant été quand même à l'origine aussi de la construction européenne. Il visait, pour faire très simple, à aussi accorder beaucoup plus de marge de manœuvre aux États-nations en donnant à l'Union européenne un certain nombre de dossiers, mais des dossiers quand même limités. Or, on voit qu'il y a eu ces dernières années comme une tentation du toujours plus d'Europe qui me semble aujourd'hui grippée. Il va falloir changer de logique. Et sur l'énergie, y compris Emmanuel Macron le demande.
Joséphine, cohabitation. Donc les autres États nous connaissent bien et savent que la cohabitation en France, c'est pas chose aisée. En tout cas, on n'en a pas l'habitude. Le gouvernement de coalition non plus. C'est pas quelque chose qui est dans notre culture politique. Les autres pays le savent très bien faire ça. Nous, bon, c'est plus compliqué. L'influence de la France en Europe était déjà relativement faible. Elle ne tenait que par Emmanuel Macron jusqu'à présent, qui avait réussi à avoir l'oreille d'Ursula von der Leyen ces 5 dernières années, qui a réussi à convaincre Angela Merkel puis Olaf Scholz pour le plan de relance européen. N'oublions pas que toutes les avancées de l'Union européenne ne se sont faites que lorsque la France et l'Allemagne étaient d'accord. Alors ça ne veut pas dire que rien ne se fera sans elle, mais en tout cas, si l'Allemagne avance avec d'autres alliés sur d'autres sujets, il est certain que pour l'instant, la France reste sur le côté.
Alors, on doit se faire en principe fin juin. Je ne sais pas où est-ce qu'on
sera
avant la fin des législatives, d'une part, et donc son poids, c'est lui qui a beaucoup pesé pour la désignation de Mme von der Leyen à l'époque. Je ne sais pas très bien s'il aura le poids qu'il avait la dernière fois pour implémenter ces postes, la présidence de la Commission, le président du Conseil, le haut représentant aux affaires étrangères.
Un gros poste comme celui que Thierry Breton a aujourd'hui.
Voilà, et donc ça, c'est une chose. Je pense aussi que hors de l'Union européenne, il y a le sommet du G7, il y a une série d'autres enceintes internationales où peut-être il va avoir une voix un peu plus fragilisée. C'est évidemment très dommage pour l'Europe parce que je pense qu'il avait, au début de la législature européenne, une position très forte et très ambitieuse qui est aujourd'hui fragilisée par sa position, la position dans laquelle il se trouve.
C'est un rôle assez important puisque le chef de l'État a quand même un domaine réservé, militaire et diplomatique. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir une forme de cohabitation au sens profond du terme. C'est-à-dire que sans doute Emmanuel Macron va-t-il être mis en avant sur le dossier géopolitique de la guerre en Ukraine et puis peut-être laisser un peu plus de marge de manœuvre sur des questions où l'Europe est en quête d'efficacité. Emmanuel Macron cherche à faire exister l'Europe sur des dossiers sur lesquels elle est aujourd'hui considérée comme faible, comme l'immigration, qui est une demande aussi d'ailleurs du Rassemblement
de l'Europe.
Construction européenne, car on peut faire comme si arithmétiquement, en effet, les groupes qui aujourd'hui sont dominants au Parlement européen peuvent continuer leur grande coalition. Donc on peut faire comme si des élections n'avaient pas eu lieu, mais je pense que c'est reculer pour mieux sauter, puisque dans 5 ans, il y aura de nouveau des élections. Et si on ne répond pas concrètement à vos enjeux qui ont fait aussi la vague populiste, comme la question migratoire, eh bien écoutez, dans 5 ans, on aura sans doute une vague populiste beaucoup plus grande que celle à laquelle on a assisté dimanche dernier.
des projets européens, des politiques européennes. C'est... La France voulait un emprunt commun, les autres pays étaient opposés. Si la France n'a plus assez de voix d'influence pour porter ce projet de financement des politiques européennes, on risque d'avoir un sérieux problème.